Bonjour et bienvenue sur le podcast Paroles de patrimoine.
Le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires.
Je suis Léa.
Je suis Azélie.
Envie de partir à l'aventure? De découvrir ce qui se cache à côté de chez vous?
Ensemble, on va vous faire découvrir le patrimoine sous toutes ses formes.
Le petit patrimoine.
Le patrimoine naturel.
Le patrimoine thermal.
Le patrimoine industriel.
Le patrimoine culturel.
Retrouvez-nous une à deux fois par mois sur une thématique qui vient décrypter un des aspects du patrimoine, en format duo ou en format invité.
On vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Paroles de patrimoine revient avec un nouvel épisode inédit à l'occasion des Journées du patrimoine avec un nouveau format, mélange d'informations, de définitions et d'interviews. Un format plus long pour vous emmener au cœur du patrimoine, mais surtout à la rencontre de ceux qui le font vivre. C'est Azélie qui prend le micro pour cette introduction. Aujourd'hui, on va vous parler du patrimoine industriel et plus particulièrement du patrimoine industriel minier. Notre invitée d'aujourd'hui, Victorine, est architecte. Elle s'est prise d'affection pour un bâtiment bien particulier de l'histoire des mines du bassin minier de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Elle vous raconte l'histoire de ce lieu exceptionnel, vous partage son parcours et son regard de jeune sur le patrimoine. Léa, ayant grandi à côté de ce lieu qu'elle connaît bien, partagera avec elle anecdotes et points de vue sur les projets à venir, les actions que l'on peut faire ensemble pour la conservation du patrimoine, peu importe sa forme. Un épisode d'utilité publique qui résonne pour nous comme un cri d'alarme pour les patrimoines en péril et une voix d'espoir pour notre engagement pour ces patrimoines. On vous laisse avec l'épisode. Tout d'abord, le patrimoine industriel, qu'est-ce que c'est ? Pour nous aider dans cet exercice de définition, nous avons pris appui sur le texte de référence du sujet, la charte Nizhny-Daguil, désolé pour la prononciation sûrement approximative, qui a été rédigée en 2003 par le Comité international de la conservation du patrimoine industriel, reconnu comme expert par l'UNESCO. Voici la définition. Le patrimoine industriel comprend les sites, les constructions, les complexes, les territoires et les paysages, ainsi que les équipements, les objets ou les documents qui témoignent des procédés industriels anciens ou courants de production par l'extraction et la transformation des matières premières, ainsi que des infrastructures énergétiques ou de transport qui y sont associées. Il exprime une relation étroite entre l'environnement culturel et naturel, puisque les procédés industriels, anciens ou modernes, dépendent de ressources naturelles, d'énergie et de voies de communication pour produire et distribuer des biens sur les marchés. Ce patrimoine comporte des dimensions immatérielles comme les savoir-faire techniques, l'organisation du travail et des travailleurs, ou un héritage complexe de pratiques sociales et culturelles résultant de l'influence de l'industrie sur la vie des communautés et sur la mutation des sociétés et du monde en général. Fin de citation. Voici la définition donnée par le comité. Elle démontre un lien complexe entre les différentes formes de patrimoine, qu'ils soient matériels ou immatériels, et prend en compte toutes les composantes qui gravitent de près ou de loin autour du lieu d'extraction de cette fameuse matière première, jusqu'à sa transformation et son réseau de distribution. Concrètement, on peut parler des bâtiments, des machines, des ateliers. On pense aux moulins, aux usines, aux mines, dont on reparlera juste après. On parle aussi des systèmes sociaux avec le paternalisme, des gestes et techniques spécifiques, des voies de transport comme les chemins de fer. On peut penser aussi aux cités d'habitation ouvrières. Tout cela résulte de cet héritage industriel largement issu de la révolution industrielle qui a marqué le pays au début du 19e siècle. L'activité économique change de nature en quelques décennies seulement. On passe d'une économie essentiellement agraire à une production de biens manufacturés à grande échelle. La difficulté aujourd'hui, c'est que cette activité industrielle a subi de grandes mutations avec l'arrivée des nouvelles technologies et les modes de travail qui ont évolué. En reste à la marge de nombreux sites abandonnés, les fameuses friches industrielles, détruites, rarement conservées en tant que témoins de cet héritage et parfois transformées pour de nouveaux usages. C'est le cas des ateliers des Capucins à Brest. C'est un lieu né il y a 300 ans et qui a été à l'origine un couvent dont la première pierre fut posée par Vauban en 1695. L'endroit a connu plusieurs transformations suite à la dissolution de la communauté religieuse à la Révolution française en 1789. Les Capucins sont devenus une caserne pour les apprentis canonniers. Dans les années 1840, ce magnifique bâtiment était destiné à la fabrication et à la réparation des navires de la Marine nationale. À la fin du XIXe siècle, il y a environ 1800 ouvriers qui y travaillaient. Puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction s'est étalée sur 10 ans. Il ne restait que les murs. C'est en 2004 que l'activité d'usinage de grandes pièces de navires toucha à sa fin. Jusqu'en 2016, d'importants travaux ont fait de ce lieu un endroit culturel, économique, touristique et de loisirs, tout en conservant le patrimoine industriel du lieu. L'aventure du lieu continue donc avec la mise en service du premier téléphérique urbain de France qui relie le plateau et le bas de Siam. Dans ces ateliers, maintenant, on y trouve des prestations de danse, des boutiques, des lieux de coworking pour certaines start-up, une librairie, des restaurants ou encore un centre d'escalade. À l'inverse, certains sites ont pu conserver leur identité. Pour exemple, la filature des calcaires en Lozère, un lieu d'industrie textile qui aujourd'hui accueille du public pour expliquer l'histoire du lieu et les savoir-faire. La filature des calcaires appartenait à une famille de Langogne, puis a été cédée en 1992 à la commune, qui ouvre le musée en 1994, après avoir fait classer les machines et le bâtiment à l'inventaire de monuments historiques. Elle est désormais un musée industriel avec des machines uniques de 1850 qui travaillent la laine. Penchons-nous maintenant sur le patrimoine industriel minier, le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il existe plusieurs formes d'exploitation minière et pour chercher différentes matières premières, comme le charbon, l'or, le sel ou le nickel. En France, les mines de charbon ont définitivement fermé en 2004 pour la dernière, mais on retrouve encore l'exploitation des mines de sel par exemple. Dressons un bref historique de l'exploitation du charbon en France. Notre sujet du jour, mais vous remarquerez que bien d'autres approches sont possibles lorsque l'on parle du patrimoine minier. Les bassins miniers visant à extraire le charbon des sols sont appelés plus communément houillères. Houillères pour lieu d'extraction de la houille et houille étant associée au fameux charbon. L'exploitation du charbon remonte au Moyen-Âge, mais son essor se fera surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la révolution industrielle par la suite. Après la Seconde Guerre mondiale, la production est mise à mal par la guerre et la reconstruction. Les sociétés minières, jusque-lors privées, sont regroupées par l'État, où chaque entreprise sera nationalisée. C'est ce que l'on appelle les charbonnages de France. S'en suivra une grande campagne de promotion et de communication pour relancer la production. Le pic de production se fera dans les années 60 avant de petit à petit péricliter jusque dans les années 1880-1890. Les dernières mines de France fermeront au début des années 2000 avec la dernière en date de 2004. Lorsque l'on pense patrimoine minier, on pense directement au bassin minier du nord de la France et ce n'est pas pour rien. Il s'agit du site majeur d'exploitation houillère de France. Il a d'ailleurs été reconnu à l'UNESCO en 2012. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais correspond à la partie française du filon charbonnier du Nord-Ouest européen. Au sein d'une plaine largement ouverte, il s'étend sur environ 120 km, traversant les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Sur cet important territoire se lie encore aujourd'hui l'activité minière à travers les installations techniques, les formes d'habitat, la silhouette du paysage. On y retrouve par exemple les fameux terrils, les puits de mine, le chevalement, les installations de traitement et de transport du charbon, des cités ouvrières avec leurs écoles, leurs dispensaires, leurs églises. Il est inscrit en tant que paysage culturel et regroupe l'ensemble de ces éléments constituant l'héritage du patrimoine matériel et immatériel qu'il représente. Au-delà de ce grand site minier, d'autres lieux d'extraction ont marqué l'histoire minière en France. C'est le cas du bassin houillé de Monceau-les-Mines, d'où est originaire Léa. Je lui laisse d'ailleurs la parole pour un petit point historique et de contexte à ce sujet, pour vous donner les clés de l'entretien qui suivra.
Je reprends le micro pour vous parler de ma ville d'origine, Monceau-les-Mines. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on parle du patrimoine minier et elle le porte dans son nom. Je vais vous raconter un petit peu son histoire pour que cela puisse être plus simple pour vous de suivre l'échange qui va suivre avec Victorine. Pour vous raconter un petit peu, donc moi j'ai grandi à Montceau-les-Mines, j'y ai passé 17 ans de ma vie avant de déménager à Clermont-Ferrand pour les études. Donc le patrimoine minier de Montceau-les-Mines, qu'est-ce que c'est? Comment il est né? Comment on en est arrivé à avoir une ville minière? En fait, le bassin minier de Montceau-les-Mines se situe donc au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, et il s'étend le long du canal du Centre. Le canal du Centre, il a d'ailleurs été créé suite à l'extension des mines sur le territoire. Au départ, il n'existait pas. En fait, la ville de Montceau-les-Mines n'existait même pas. C'était un petit hameau et même une ferme qui s'appelait la ferme du Monceau. Et c'était vraiment l'activité agricole qui régnait. Rien ne la disposait alors à devenir le site majeur de l'exploitation houillère de la région. C'est au début du 19e siècle que l'exploitation industrielle prend son essor et transforme radicalement le paysage. Dans les années 1825, une compagnie des mines viendra faire ses recherches sur le territoire du Monceau avec la découverte d'un important gisement de charbon qui deviendra du coup le site majeur du bassin. Ce dernier s'étend sur une longueur d'environ 100 km et d'une largeur de 12 km à son niveau le plus dilaté, donc en son milieu, c'est-à-dire au niveau de Monceau-les-Mines, et compte 4 km environ de largeur sur les extrémités. Le paysage se dote alors rapidement de fameux chevalements. Ce sont des structures hautes, en métal ou en béton, qui sont positionnées au-dessus des puits et qui permettent de faciliter le déplacement des machines, des ressources et des hommes entre la surface et le sous-sol, puisqu'on a cet effet de poulie, de levier, d'ascenseur un petit peu qui permet de graviter. D'autres bâtiments vont être construits, des bâtiments de gestion, les bureaux administratifs, qui sont l'actuelle médiathèque de Montceau-les-Mines, les ateliers centraux, les forges, etc. Et puis, tout autour des bâtiments de la mine, se crée la ville, avec les fameuses cités ouvrières, toutes les maisons qui sont construites pareilles, mitoyennes, avec les petits jardins, qui vont permettre de loger les mineurs dans les meilleures conditions qui soient, puisque s'il est dans de bonnes conditions pour vivre, il sera dans de bonnes conditions pour travailler. La construction s'étend avec une école, une église, et du coup, on a l'arrivée du premier maire, Jules Chagot, qui est le neveu de Léonce Chagot, le premier directeur de la mine. Et puis, au cœur de ce paysage industriel, arrive la construction d'un monument emblématique, le fameux lavoir à charbon des Chavannes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et c'est pour ça que plus tard, on échange avec Victorine, c'est à ce sujet-là. Auparavant, le minerai était directement traité sur place. Mais avec une production de plus en plus grandissante, il a fallu trouver une solution afin d'apporter une amélioration à la qualité des produits, donc le charbon, mais également pour améliorer les conditions de travail. C'était les femmes qui s'occupaient sur le carreau de la mine, donc juste à la sortie des puits, de s'occuper du triage, du calibrage et du lavage de ces fameux morceaux de charbon. Par la suite, donc, la construction du lavoir est décidée en 1922 et il sera mis en service en 1923, l'année suivante. À partir du début de sa construction et pendant les 7 années qui vont suivre, plusieurs procédés vont être mis en place. On va avoir un réseau de voies ferrées, des convoyeurs à bande, une branche du canal qui va directement être reliée au lavoir pour l'exportation du charbon sur les péniches, et tout le réseau d'acheminement, en fait, d'exportation et... Tout le réseau d'acheminement et d'exportation du fameux minerai va transformer le paysage de la ville sur plusieurs kilomètres pour relier les lieux d'extraction au site du lavage des Chavannes, qui lui est stratégiquement placé au cœur du bassin. Le lavoir à charbon des Chavannes fonctionnera pendant plus de 76 ans, jusqu'à la fin de son activité en 1999. Puis, l'arrêt de l'exploitation houillée du bassin se fera 2 ans plus tard, en 2001. Dès la fin de son utilisation, le site est inscrit au monument historique, en 2000. Malheureusement, durant plus de 20 ans, aucun projet ne sera mené sur le site et celui-ci va petit à petit devenir une friche à l'abandon. Triste vestige d'une époque passée. Malgré tout, l'association d'anciens laveurs œuvre à son maintien en réalisant quelques travaux sur place et en faisant des animations, des manifestations pour parler du lieu et parler de leur histoire. En 2020, fait insolite, le lavoir sera radié des monuments historiques faute d'entretien. Victorine nous en parlera juste après, plus en détail, pour en comprendre les raisons. Le lavoir était jusqu'à présent propriété de l'État, depuis les charbonnages de France. Il sera racheté par la commune de Montceau-les-Mines à 1 euro symbolique. L'espoir, à ce moment-là, d'une nouvelle ère de valorisation qui sera pourtant rapidement perdue, faute une fois de plus de considération.
Heureuse rencontre de parcours, Victorine nous raconte son lien avec ce territoire qu'elle a découvert par hasard dans le cadre de ses recherches de mémoire. Rien ne l'a destinée à tomber amoureuse de ce site, bien loin de son histoire et territoire d'origine, proche de Bourges, où c'est l'industrie textile qui a marqué le territoire. Nous vous laissons avec ces échanges avec Léa, entre parcours de vie, histoire sensible, engagement de la jeunesse pour le patrimoine, projet de valorisation. Un échange authentique qui pourra, nous l'espérons, vous inspirer et dans lequel vous vous reconnaîtrez peut-être.
Aujourd'hui, on retrouve Victorine qui est avec nous pour nous parler du lavoir à charbon de Montceau-les-Mines, qui est un lieu très riche en histoire sur le patrimoine industriel minier, justement, c'est le thème du podcast, donc ça tombe bien. Victorine, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors bonjour, moi c'est Victorine, je suis fraîchement architecte depuis un an, architecte dans une agence spécialisée dans le patrimoine, dans le Cher. J'ai fait mes années d'études à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, spécialité patrimoine.
Et à l'école d'archi, du coup, comment ça se présente ? Comment ça se passe pour devenir architecte ?
Ça se compose comme un parcours universitaire normal, c'est-à-dire qu'on commence par faire sa licence en 3 ans, ensuite un master sur 2 ans. Et à l'issue de ça, on est donc diplômé d'État architecte. Et ensuite, on peut, si on veut, continuer ou non dans des branches autres.
Et justement, tu as pris l'option patrimoine. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à avoir ce feeling un peu patrimoine, architecture et patrimoine ?
Parce que j'ai toujours eu un attrait pour le patrimoine, l'histoire. L'histoire de l'art, de l'architecture. Et je sais pas, ça m'a paru logique d'aller directement dans ce domaine d'études-là. Et puis aussi parce que je suis née dans un petit village où il y a pas mal de patrimoine et des vieilles pierres, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on est appelé en fait. Le patrimoine, c'est les vieilles pierres. Et du coup, ça me paraissait logique en fait d'aller vers cette voie-là. Plutôt travailler avec l'existant plutôt que de construire en fait.
Donc là, t'es architecte dans une agence aux alentours de Bourges, si on place un petit peu là où t'es.
Ouais, au sud de Bourges.
Ok, là on enregistre à Clermont-Ferrand, on parle de Montceau-les-Mines qui est en Saône-et-Loire, et Victorine, elle vient du sud de Bourges, du coup, un petit peu de repère spatial.
C'est un peu compliqué, hein.
C'est ça.
Le triangle...
On bosse la géographie en même temps que l'histoire, ouais. C'est parfait. Donc là, on est là pour parler du lavoir à charbon de Montceau-les-Mines. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi un lavoir à charbon ? Et c'est quoi, quelle est la spécialité, spécificité un petit peu de celui de Montceau-les-Mines ?
Ouais, alors c'est une grosse machine. Alors en fait, tout simplement, une usine qui permettait de préparer le minerai pour qu'ensuite il soit exploitable et vendu à d'autres usines pour le chauffage ou à des particuliers, pareil, pour le chauffage. Le lavoir des Chavannes, il permettait de laver 1000 tonnes à l'heure de charbon, donc c'est quand même énorme. Alors qu'avant, le charbon, il était lavé à la sortie des puits, donc on appelait ça sur les carreaux des puits. Et ensuite, il partait à l'exportation, mais...
Du coup, par rapport à la cadence de base de juste faire à la sortie, il ne pouvait plus laver assez vite ou...
Oui, c'est ça. En fait, ça demandait trop de... Ça demandait vraiment une grosse machine pour pouvoir exporter le plus de minerais possible. Et en fait, c'est les houillères de Blanzy, Monceau et Le Creusot qui ont commandé cette usine à un bureau d'études, Pelnard Considère Caco. Qui en fait, on va en parler brièvement, mais pas tant parce que c'est pas le sujet, mais c'est un bureau d'études quand même assez reconnu qui a fait de grandes choses, notamment ils ont fait partie donc de la construction du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Donc c'est un peu marrant qu'ils se retrouvent à construire un lavoir à Montceau-les-Mines en France.
C'est clair.
Faut imaginer que c'est un bâtiment, mais en fait c'est que des machines dedans, comme si c'était une structure qui avait été construite pour protéger les machines en fait. C'est un bâtiment machine.
Il n'est pas conçu pour avoir des espaces spécifiquement pour l'homme, mais les espaces sont construits pour les machines.
Si, bien sûr qu'il y a des espaces pour l'homme. En fait, faut imaginer que autour des machines, il y a plein de petites plateformes avec des escaliers partout. Et qu'en fait, on se balade comme ça, d'un point à un autre, en passant par des escaliers, on monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on remonte, on redescend. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait enlever des choses, faudrait. Enfin, les machines, elles sont complètement. Elles font complètement partie du bâtiment, quoi. Le lavoir, il faut savoir qu'il fait 100 mètres par 100 mètres, fois 30 mètres de hauteur, au plus haut.
Ouais, donc c'est
Donc,
un monstre de bâtiment, quoi.
c'est vraiment un monstre. J'ai lu des articles, on l'appelle c'est un vaisseau, quoi. Il a été forcément question de où est-ce qu'on place le lavoir. La stratégie a été de le mettre à Montceau-les-Mines, puisqu'en fait, il s'est retrouvé au centre des houillères de Blanzy et de Le Creusot. Et donc ensuite, stratégiquement, il permettait donc par le canal et les voies ferrées de pouvoir exporter le charbon à divers endroits, en fait.
Oui, il était placé à la fois entre le canal où du coup il y a un embranchement
C'est
qui a été
ça.
dévié.
Dans le lavoir a été conçu de sorte à ce qu'il y ait des silos au-dessus du port pour que les péniches se placent à cet endroit-là, pour que ensuite le minerai dans le silo se déverse dans les péniches et puisse repartir.
En gros, le minerai, il est extrait de la mine, on le ressort. Et
Oui.
là, il arrive comment
Alors
jusqu'au
là, il
lavoir?
arrive la plupart du temps par des convoyeurs à bandes.
Donc c'est
Donc en fait, c'est des bandes, enfin des
comme un tapis
bandes en.
roulant?
C'est ça,
Ok.
exactement, oui, exactement, c'est ça. Qui en fait étaient placés depuis les puits, donc ça faisait quand même des petits kilomètres,
Ok. Ouais, donc il y avait des kilomètres de tapis
de tapis
roulant.
roulants, ouais, en fait, qui partaient des puits et qui ensuite arrivaient au lavoir. Donc le lavoir, il est construit en différentes parties. Il y a donc 8 lignes de traitement. Chaque ligne dépendait d'un puits, c'est-à-dire que strictement interdit de mélanger différents charbons de différentes
Ok.
mines. Il y avait des différentes machines. Il y a d'abord les verses, ensuite on retrouve toute la partie lavage, et ensuite il y a la partie dosage. Le charbon il arrive par convoyeur à bande.
Donc il arrive sur la partie des verses, c'est ça?
Voilà, il arrive au niveau des verses. À partir de là, en fait, il va être trié parce que. C'est-à-dire qu'il arrive directement sorti de la mine comme ça. Donc il faut imaginer qu'il y a potentiellement des choses qui n'ont rien à voir avec le charbon, notamment souvent de la pierre, ou ça peut être des bouts de ferraille ou des bouts de bois très souvent. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ça arrive en gros blocs. Alors ça peut arriver sur des convoyeurs à bande, mais ça peut aussi arriver par train. Et à ce moment-là, c'est des trains avec des wagons avec un trou en dessous.
Ok.
Ce qui fait que ça se verse dans la grande, grande verse. Après cela, il est trié. Ensuite, il passe dans des machines pour être calibré.
Le tri se fait avec les machines ou il y a justement des humains
Alors, il y a
qui...
un homme et qui était au poste du chantier des bois, on appelait ça, et justement qui permettait donc de trier et d'enlever ce qu'une machine ne pouvait pas enlever en fait.
Et donc après, donc là, ça arrive par train ou par bande.
Ouais, convoyeur à bande.
Convoyeur à bande. Après, c'est déversé dans les grosses bennes, enfin les verses, c'est
Les
ça?
verses, des grosses verses, ouais.
Ok. Et après, c'est trié.
Oui.
Et après, on arrive sur la partie
Après,
lavage.
c'est trié, ensuite c'est calibré. Si on raisonne par étage, au rez-de-chaussée, on a vraiment les silos de dosage.
Ok.
Et vraiment, c'est sur la partie supérieure qu'il y a toutes les machines
Ça arrive tout en haut et en
tout
fait
en
ça
haut.
descend.
En gros, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que ça arrive, ça va tout en bas. Au niveau des verses, faut vraiment s'imaginer que
Ah
c'est
oui, donc
tout
les
en
verres
bas,
sont tout en bas.
voilà.
Ok.
Et ensuite, ça remonte tout en haut du bâtiment, au plus haut, et ensuite ça redescend petit à petit. Et à la fin de tout ce chemin, il va être ensuite dosé et mis dans les silos, et ensuite il repartira à divers endroits. Ça repartait par péniche, soit par wagon.
Et justement, tout ce charbon, il était vendu localement ou...
Il partait pas très loin, mais principalement dans la région quand même,
On avait
parce
une...
que ça allait principalement dans les usines pour pouvoir chauffer. Sinon, à côté, ça allait à la centrale Lucie, pas au début, hein, parce qu'elle a pas été construite tout de suite, mais une fois qu'elle a été construite, c'est parti et ça permettait de chauffer.
Jusqu'à Montceau-les-Mines, Bon, elle fonctionne plus, mais on avait
Une
une
centrale
centrale à charbon.
à charbon,
Je trouvais
ouais.
plus le nom. C'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression quand on arrive à Montceau-les-Mines que déjà c'est une centrale nucléaire, un truc un peu bizarre. Et c'est un peu un phare, enfin, du coup moi qui ai grandi à Montceau. Et par rapport au lavoir, c'est aussi un bâtiment qui est hyper emblématique à Montceau. Et ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'il est caché, il est visible de très peu d'endroits au final, aujourd'hui.
Oui.
Il interpelle, on se demande ce que c'est. Mais on n'a pas de lieu où on peut vraiment prendre le temps de le voir, puisqu'il est le long de la rue en contrebas. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer vraiment. Mais...
Parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que la ville, elle s'est construite et développée.
Elle a continué de se construire,
mais pas forcément autour de lui. Quoi.
Ouais.
Si on ne sait pas qu'il est là, on ne le voit pas.
On ne voit pas, on ne pense pas à tourner la tête à ce moment-là.
Et limite, au pire, on se demande qu'est-ce que c'est ce gros bâtiment.
Ouais.
Mais je pense pas que ça vienne à l'esprit, que ça soit un lavoir à charbon. Ouais. Surtout que moi, avant lui, j'en avais jamais vu. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Et en plus, c'est finalement c'est le plus grand dernier lavoir d'Europe.
Ouais, ça c'est énorme. Ça, c'est ce que je me dis. C'est fou. Il a une dimension européenne absolument folle.
Ouais.
Et historiquement, aujourd'hui, il est quand même... mis de côté, on n'en parle pas dans le patrimoine de la ville. Enfin, en termes de valorisation patrimoniale, Montceau-les-Mines, on n'est quand même pas au top, hein, vraiment pas. Donc là, tu t'es pris d'affection pour ce lavoir, tu as fait ton mémoire dessus pour en parler, pour le mettre en avant, parce que comme on dit, quand on passe, si on ne sait pas qu'il est là, on ne va pas le voir. Et si par hasard on le voit, bah, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça pose question sur plein de choses en termes de valorisation patrimoniale et de transmission de la mémoire aussi de minière, puisque du coup, les derniers à pouvoir en parler, c'est les mineurs qui l'ont vécu. Et du coup, ils commencent à être âgés aussi. Donc toi, comment t'es tombée déjà dans ce cercle de ce lavoir à charbon et cette envie de faire des choses pour ce lavoir? Parce que du coup, toi, t'habitais vers Bourges, tu t'es retrouvée à Montceau-les-Mines. Déjà, comment ça s'est fait?
C'est vrai que c'est une question, c'est une bonne question, puisque c'est vrai que ça paraît très étonnant du fait de la position géographique. Mes études à Clermont-Ferrand, je viens du centre de la France, je me retrouve à travailler en Saône-et-Loire, donc c'est très bizarre. Et en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré le lavoir quand il a fallu trouver un sujet de mémoire, donc c'est quand j'étais en quatrième année d'école d'architecture. En fait, c'est venu du fait que pendant mes années d'école d'architecture, on a dû faire des stages. Et c'est vrai que je me suis toujours tournée vers le patrimoine et la question de réhabilitation, notamment des friches industrielles. Aujourd'hui, où l'ère industrielle elle peut être passée pour certains domaines ou certaines activités, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait, dans notre paysage? Qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on peut les réhabiliter, en fait? C'était ça la question que je me posais. Et puis, je viens d'une ville, donc Saint-Amand-Montrond, donc au sud de Bourges, qui, elle, a plutôt un passé industriel, mais plutôt textile ou papeterie. Justement, pendant un stage de ma troisième année, je me suis retrouvée dans une agence qui restaurait une friche industrielle. C'était une ancienne usine de textile, où je l'avais visitée encore en activité. Et où, quand je l'ai visitée pour faire les maîtres, je me suis retrouvée dans un truc complètement en friche. Il y avait des objets encore là, mais tout était bazardé. Enfin, c'était un sentiment assez bizarre. Et je me suis dit, mais en fait, comment on fait en fait, ça donnait l'impression que les personnes étaient parties du jour au lendemain.
Ouais, c'est figé, quoi.
C'était très, très spécial comme ambiance. Et bon, après, tous ceux qui font de l'urbex, je pense qu'ils ressentent exactement ce sentiment-là. Ça a conforté mon idée de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi?
Ouais, il y a des choses à faire.
Voilà, il y a du potentiel, en fait. On peut peut-être, au lieu de les détruire, on peut peut-être en faire quelque chose, quoi. Et pour le coup, dans ma ville, là, où tout le monde a toujours connu cette usine, je pense que ça a fait plaisir à des gens de ne pas l'avoir rasé.
Oui, il y a une mémoire sentimentale aussi qui reste avec ce
Exactement. Lieu. Déjà, pour te dire, ils ont détruit un bâtiment qui n'était pas le plus incroyable et important. Ça a été la fin du monde. Hein,
Ouais, parce que ces bâtiments industriels, ils ont une attache parce qu'aujourd'hui, on les... on les utilise plus parce que c'est plus dans nos activités et nos usages modernes. Mais les générations qui ont connu ces bâtiments sont encore vivants et voient encore ces bâtiments-là.
C'est ça.
Donc il y a cette dimension de c'est à l'abandon parce qu'on n'a plus l'usage, mais ça a une mémoire sentimentale. C'est une mémoire aussi patrimoniale, puisque les développements industriels et tout ça, c'est quand même récent, mais il y a des choses à dire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait pour le futur ? Enfin, ça pose plein de questions, en fait, salut.
Pour en revenir au sujet de mémoire, donc ça, c'était mon stage d'été. Donc quand je suis revenue à l'école et qu'il a fallu trouver un sujet, je me suis dit, tiens, il faudrait que je trouve une friche industrielle. Et en fait, il se trouvait qu'à cette époque-là, il y avait des étudiants de ma promo supérieure qui justement allait travailler sur une friche industrielle, donc le lavoir à charbon des Chavannes.
Carrément.
C'est vrai que pendant nos années d'études, souvent, nos sites de projet étaient amenés à potentiellement faire bouger des choses. Genre, ça permettait d'amener des réflexions là où il n'y en avait pas forcément. Mais en fait, les professeurs, des fois, ils trouvaient des sites de projet intéressants pour que des étudiants s'y penchent un peu plus et proposent, du coup, si on était 30 élèves, ça faisait 30 projets, 30 réflexions. Et en fait, un jour, il est venu dans notre salle et il nous a parlé de ce projet. Enfin, ça commençait à être son bébé, quoi. C'était... Ah non, mais ce bâtiment, vous vous rendez compte, c'est le dernier plus grand lavoir d'Europe. Vraiment, je suis sûre, il faut écrire quelque chose sur lui. Si vous savez pas quel sujet prendre...
Pensez-y,
vraiment. Et puis moi, ça a tout de suite un peu fait tilt dans ma tête, parce que je me suis dit, attends, tu cherches un sujet sur une friche industrielle, là t'en as une, il y a des étudiants qui vont travailler dessus sur le projet, enfin en tant que projet, donc ils vont avoir des données à échanger avec toi, enfin ça peut être l'occasion, quoi. Et puis, ça, c'est fini que je suis tombée dedans, quoi. C'est ça le problème, en fait.
Puis comme il y a des grandes bennes, on y reste bien.
C'est comme Obélix, quoi. C'est-à-dire que après tu tombes dedans, puis clairement, j'étais foutue, quoi. Je pouvais pas faire... J'avais un sentiment de devoir, et de devoir accomplir quelque chose. Ce bâtiment, il a le lien direct avec la mine. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, ces personnes-là, ils sont amenés à disparaître. Et qui va parler de tout ça et le bâtiment qui va en parler plus tard, quoi. Donc je pense qu'il était nécessaire d'écrire à ce sujet-là et de laisser une trace.
Dans ton mémoire, tu traites la question des friches industrielles et du coup du lavoir à charbon. La spécificité du lavoir à charbon, c'est qu'il a été déclassé. Enfin, il était inscrit au monument historique.
Il a été radié de son inscription. Ouais.
Il était radié, c'est le seul bâtiment
Alors, qui n'existe pas. Oui, alors moi, ça, j'avais jamais vu ça encore. après, vous allez me dire, je suis jeune et tout ça. Mais c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. J'en avais entendu parler pour des objets ou mobilier.
Et pourquoi on radie ?
Que tout ce qui justifie l'inscription ne se justifie plus, en fait. L'inscription ne se justifie plus pour diverses raisons.
D'accord.
Là, ce qui s'est passé, c'est que le lavoir, il a été... son activité s'est arrêtée en 1999. Et ensuite, ils l'ont inscrit en 2000. Sauf que le professeur, quand il a proposé le projet, c'était en 2020. Ça faisait déjà 20 ans qu'en fait, il n'y avait toujours rien de fait et que le bâtiment, il était toujours là.
Il était resté à l'état, mais parti.
Exactement.
Et c'était resté.
C'est ça. Et moi, quand j'ai commencé mon mémoire, on va dire, j'ai découvert qu'il avait été radié en 2020. Et donc, ça veut dire qu'en 20 ans, il a été inscrit, mais il ne s'est rien passé. Moi, ouais, ça, c'est un truc, ça m'a...
Parce que normalement, l'inscription, ça entraîne des projets de valorisation, où on en parle, ou...
Normalement, oui.
Ouais. Et là... Du coup, il n'y a rien eu. Et ça explique la radiation ?
Ah bah oui, complètement, puisque un bâtiment, il ne se fiche pas, en fait. Mm. C'est-à-dire que le bâtiment, s'il n'est pas protégé, il va prendre l'eau. Ensuite, il y a de l'érosion, les tuiles tombent. Enfin, et le lavoir à charbon, c'est exactement ce qui s'est passé. Et forcément, la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, là, Elle a radié le lavoir en disant que les composantes qui justifiaient son inscription ont disparu, forcément. Puisque tu fais rien pendant 20 ans, faut pas t'attendre à ce que le bâtiment, il soit
resté comme ça, quoi.
Et donc, forcément, si ça a disparu, ben, ça ne justifie plus son inscription.
Ok.
Donc, on leur a dit.
Ouais, donc là, on n'en a déjà rien fait pendant 20 ans quand il était inscrit. Donc maintenant, il n'a même plus d'inscription, donc il n'a plus de reconnaissance officielle en tant que patrimoine.
Là, clairement, il n'a plus de reconnaissance nulle part. Mais le problème, c'est qu'il leur coûtait plus cher qu'autre chose.
Mais en plus, c'est un bâtiment qui est en amiante, donc on ne peut même pas le,
ah, mais là, c'est
enfin, ça, le détruire mais ou le garder.
C'est un bâtiment, honnêtement, c'est cauchemardesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûterait plus cher, ça coûterait aussi cher de le démolir que de le réhabiliter.
En fait, c'est un peu ce qui l'a sauvé, entre guillemets, de ne pas avoir été démoli, comme beaucoup de bâtiments de la mine.
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui l'a sauvé, oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que ça va coûter cher de le démolir. Donc, en fait, bah, autant qu'il se démolisse tout seul.
Ouais.
Je pense que c'est un peu ça la raison aujourd'hui de pourquoi il est encore là. Et puis oui, forcément, il y a de l'amiante. Et puis, il faut dépolluer les sols. Enfin, c'est un gouffre, en fait, pour tout le monde, mais...
Et il y a des gens qui s'en occupent, parce que du coup, on n'en a pas parlé, il y a une association qui s'occupe de ce lavoir, parce qu'il est resté figé, mais il y a eu un petit peu d'entretien quand même de ce qui se fait autour.
Oui, alors oui, il y a une association, donc Association de sauvegarde du patrimoine Lavoir des Chavannes, qui en fait est principalement constituée d'anciens laveurs. Et en fait, ils ont fait, oui, quelques travaux, mais c'est pas... C'est encore une fois, c'est à échelle humaine. Enfin, sur un tel bâtiment comme ça, c'est pas comparable, quoi. Je veux dire... Donc, ils ont beaucoup entretenu les espaces verts.
Aujourd'hui, on peut pas le visiter, on peut pas rentrer dedans, il est trop...
On le visite, mais faut faire très attention. Ouais. Je pense que c'est
oui, ça a pas été un lieu qu'on peut aller voir devant pour savoir ce que c'est. On peut pas visiter dedans comme on peut faire dans un musée ou dans des châteaux.
Non, par contre, non, faut pas.
Il y a pas eu cette valorisation.
Bah, surtout qu'en plus, il y a des endroits, faut pas y aller. Hein.
Ouais. Il y a un vrai danger
à certains aujourd'hui, endroits. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'y suis retournée il y a quelques mois.
T'es accompagnée de l'asso?
Oui, par contre, oui, on y va toujours avec l'association. Le président, il connaît très bien les lieux et où il faut passer pour pas que ce soit dangereux, etc.
Oui, il connaît l'avancement de la fragilité
ouais,
du bâtiment.
Oui, on va dire ça. Ouais, donc, du coup,
Et donc, du coup, maintenant, toi, tu travailles un peu avec l'association sur des projets. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce lavoir?
Donc aujourd'hui, ce bâtiment, il appartient à la mairie. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui change. Et c'est bien triste parce qu'on aurait pu croire que justement, que ce bâtiment devienne propriété de la mairie. Potentiellement, il y a des choses de fait. Je ne parle pas de le réhabiliter à 100% parce que je pense que c'est pas possible. C'est un gouffre.
À l'échelle du territoire, c'est pas possible.
Mais rien que, je sais pas moi, des événements autour de ce lavoir, autour de cette histoire, autour de l'architecture de ce bâtiment qui est quand même particulier. Franchement, on n'en verra pas partout des bâtiments comme ça. Donc je pense que ça mérite un peu plus de regard en fait. Et donc aujourd'hui, là, on est en train d'organiser une exposition. On est en 2023. Le bâtiment a été construit en 1923. Donc, en fait, cette année-là, on fête les 100 ans du lavoir. Par exemple, on a organisé donc, une exposition pendant les Journées européennes du patrimoine, donc, qui s'est tenue le 16 et 17 septembre. Ça nous a permis, en fait, de retracer un peu toute l'histoire du lavoir, et notamment forcément de 1923 à 1999 pendant son activité, et après qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui on en est là, quoi. Et pendant cette exposition, donc, ça a permis aux personnes donc, de visiter le lavoir, de faire aussi des rencontres avec forcément les anciens ouvriers du lavoir. Ça nous a aussi permis d'exposer des maquettes des étudiants d'architecture qui avaient travaillé donc, sur le lavoir en tant que projet. Et ensuite, d'autres projets, ce serait que ce lavoir soit vraiment plus vu, plus reconnu. Et donc, l'idée, ce serait de travailler avec l'association, de travailler sur donc, leur mémoire, de travailler donc, sur une mémoire orale. Et ensuite, que cela nous permette de construire une sorte de film à l'aide donc d'une personne qui fait du son au conservatoire de Saône-et-Loire et une amie à moi qui travaille sur de la modélisation 3D. Et tout ça, en fait, ça nous permettrait d'avoir comme une journée type d'un laveur. En même temps, d'avoir du son, de la 3D, puis leur explication avec. Et je pense que tout ça, ça pourrait être un... Enfin, ça serait vraiment un grand objectif si on arrive à... Et je pense que ça permettrait déjà de poser une mémoire.
Ouais, donc il y a à la fois l'enjeu de ce bâtiment qui est là, mais qui va disparaître ou qui va de moins en moins être reconnaissable pour ce qu'il est. Le fait qu'il faut expliquer son histoire, parce que même s'il est là, on ne le connaît pas. Et la mémoire de ces personnes qui commencent à être âgées et qui vont disparaître. Donc il y a cet enjeu de... On ne peut pas visiter le lieu. Donc comment on le fait visiter sans être dedans?
Exactement.
Ce serait ça.
Ça serait un peu ça le but, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même compliqué d'y aller et même dangereux d'être dedans. Vraiment, à tout moment, ce bâtiment...
Il disparaît, quoi.
Il peut ne plus être là. Enfin, il sera là, mais vraiment en état de ruine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là... On peut pas appeler ça une ruine puisqu'il a encore, il est à clos quand même. Bon, il y a plus de fenêtres, etc.
Oui, mais il a sa couverture.
Je veux dire, il y a quand même ça. Il a sa couverture, il a ses murs. Enfin, je veux dire, là demain, il y a un problème. Comment on fait, quoi? C'est-à-dire qu'on n'aura plus de. Oui, on aura des photos, mais ça retrace pas l'ambiance qu'il aurait pu avoir, quoi.
Ouais, puis ça fait 20 ans qu'il est là. Il n'y a rien qui a été fait. En fait, là, on joue sur les dernières années, on peut vraiment faire
exactement
quelque chose.
Les 100 ans du lavoir, c'est vraiment une excuse, entre guillemets, pour peut-être faire avancer les choses. De se dire, ouais, attendez, ce bâtiment, en 100 ans, il est devenu ça. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu plus concrètes, quoi, pour vraiment laisser une trace de quelque chose. Et que si jamais, un jour, il est amené à disparaître, au moins qu'on n'ait pas de regrets, en fait. Qu'on aura tout fait pour faire honneur, en fait, aux mineurs et aux ouvriers de la mine, en règle générale, et aux ouvriers du lavoir. Et qu'on aura laissé vraiment une trace écrite, avec le mémoire, orale, visuelle. Un complexe de choses qui permettent de construire une mémoire du lavoir.
Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que c'est Montceau-les-Mines, mais on n'a pas de valorisation à proprement parler de cette histoire minière. On a plein de bâtiments dans Montceau qui parlent de cette histoire de la mine et qui sont liés, en fait, du coup, au lavoir. Et rien n'est fait réellement. On a un magnifique musée de la mine à Blanzy, où on peut aller dans des galeries. Et ça, c'est fou qu'il y ait ce musée qui soit très, très bien fait. Et qu'il n'y ait pas de liaison qui est faite avec ce lavoir et tout ça.
Quand on visite ce musée, on parle vaguement du lavoir, que la personne explique vaguement qu'il y a un lavoir.
Mais surtout qu'en plus, avec si on imagine le film, avec la mémoire orale, etc., des bruits, du son, il y a un lieu d'accueil, voilà, pour ce film.
Potentiellement, on pourrait penser qu'il serait très bien de l'exposer là-bas, ce film, quoi.
Ouais. Bah, l'avantage du film, c'est qu'on peut le mettre un peu où on veut, après.
Voilà, c'est ça, exactement.
Bah, moi, ça me ferait trop kiffer de voir tous ces projets sur mon chez-moi, en tout cas. Et justement, par rapport à tout ça, par rapport au projet, on n'en a pas parlé là. Quand j'étais au lycée, on a fait un projet avec mes camarades sur une application pour faire un parcours là dans la ville de Montceau-les-Mines pour parler de l'histoire de la mine et des bâtiments. Et justement, là, on est en train de regarder, du coup, avec Victorine, pour associer de la mémoire orale, donc des témoignages de mineurs, sur la vie aussi de l'époque, et le lavoir à charbon dedans. C'est un peu notre porte d'entrée de travail pour associer toutes les grandes idées qu'il y a sur ce lavoir et l'histoire de la mine. Donc, advienne que pourra, pour ce lavoir.
Oui, j'espère, hein, qu'on va pouvoir faire des choses. Du moins, on va tout faire pour, de toute façon, on va pas... On va pas lâcher, hein.
Non. En plus, ce qui est fou, c'est que, pour l'anecdote, cette application, on l'avait faite, elle a été présentée à la mairie, et rien n'a été fait derrière. Et c'est vrai que, du coup, quand... je suis rentrée à l'école d'archi, j'étais à Clermont. Bah, c'était plus difficile d'être sur Montceau-les-Mines, donc j'ai lâché le projet complètement et j'y croyais plus parce que de toute façon, se battre tout seul, ça servait pas. Et du coup, Victorine qui revient avec son mémoire 5 ans plus tard et qui dit hey,
et si on faisait ça, ce serait trop bien.
J'ai plein de projets.
Ouais.
Et donc, ça, c'est chouette parce que c'est un bâtiment qui me tient à cœur, qui fait partie de mon paysage quotidien et de pouvoir travailler avec. D'autres personnes, d'autres jeunes, et avec un peu une vision pareille, ça relance. Puis je pense que même pour l'association, ça doit faire du bien à l'équipe de voir qu'il y a des jeunes qui sont dedans.
Oui, exactement. C'est ce que je ressens aussi, ouais. De voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent déjà à leur lavoir, qui est franchement toute leur vie. Hein. Enfin, Jean-François, s'il pouvait dormir dans le lavoir et le ferait à sa femme, je pense pas qu'elle serait trop contente. Mais il y passe vraiment beaucoup de temps et il donne tout hein, pour ce lavoir. Et c'est ça aussi qui m'a un peu touchée. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, honnêtement, enfin, qui n'ont pas eu une vie facile quand même au niveau travail. Ça devait pas être la rigolade tout le temps. Jean-François, il me l'avait dit dans son entretien. Il m'avait dit, moi je suis rentrée là-dedans, ça faisait un boucan, je voulais tout de suite retourner. Enfin, je voulais tout de suite repartir chez moi. Et puis en fait, j'ai passé toute ma vie. Et en fait, c'est des témoignages qui m'ont touchée. C'est une histoire qui m'a touchée. Et puis même, je trouve que c'est un peu de l'injustice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose réellement question sur notre domaine qui est l'architecture, sur la protection des édifices. C'est-à-dire que on est capable d'inscrire, mais on peut très bien, très facilement radier une inscription d'un bâtiment. Et ça, du coup, ça pose vraiment question sur les pouvoirs d'une protection. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait après de tout ça? On protège et après on laisse? Ben, je pense que non. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Il y a un vrai rôle du pouvoir public.
Le patrimoine industriel, et encore plus patrimoine industriel minier, a vraiment un grand chemin encore à faire, puisqu'il n'est pas... Moi, je trouve qu'il n'est pas reconnu.
Non. Puis il est reconnu par les personnes qui ont vécu la mine, j'ai envie de dire. Parce que c'est une attache sentimentale, et c'est plus difficile d'intéresser les personnes qui d'extérieur qui vont venir.
Ouais,
on va penser en fait au nord de la France qui est reconnu UNESCO,
ouais.
Mais on va pas penser à ça. Même en Auvergne, on a plein de cités minières. Mais en fait, quand tu viens en Auvergne, tu viens voir le Puy-de-Dôme, tu te dis pas il y a des mines, il y a eu des villes minières, et en fait, il y a une histoire industrielle qui est incroyable en France, et en fait, qui est pas valorisée, peut-être parce que c'est encore trop récent. Ou pas assez, mais justement, on est entre deux.
C'est ça qui est compliqué. C'est déjà trop tard. À la fois, pour moi, c'est ça. C'est que c'est déjà trop tard.
Et c'est dommage.
C'est une génération, plusieurs générations qui s'en vont, quoi, quand même.
Là, on a un témoignage direct de ça, et de ces histoires, de ce vécu. Et on n'aura bientôt plus. On n'aura bientôt plus que la parole de parole de parole. Et puis, petit à petit, en fait, ça fonctionne plus.
Oui, puis ça va se déformer. Puis ça sera moins bien raconté. Il n'y aura plus les émotions vont partir.
C'est un patrimoine qui a été vécu par du coup les générations, globalement à peu près la génération de nos grands-parents, qui a été vécu et qui est toute leur vie. Et en fait, on n'en parle pas. C'est comme si ça n'existait pas, tout ce qu'ils avaient fait de leur vie. Alors que pourtant,
oui, parce que c'est un sujet un peu tabou sur les mines. Pour de certaines personnes.
Après, l'autre partie de l'industrie, tout ce qui va être textile ou papeterie, tout ça, je connais pas, mais c'est vrai que du coup...
C'est moins tabou, puisque c'est moins... La mine, c'était dur, quoi. Ouais. C'était horrible, c'était...
Il faisait chaud,
on allait vraiment travailler très, très, très tôt, même très, je veux dire, vraiment dans l'âge.
Très jeune.
Très jeune. Fallait absolument travailler pour manger, pour vivre, et il fallait travailler durement. Et c'est ça, je pense, les gens en ont un mauvais souvenir. Il y en a beaucoup qui mouraient dans les sous-sols, puisque...
Il y avait plein d'accidents.
Il y avait beaucoup d'accidents. Je pense que pour certaines personnes, c'est pas un bon souvenir.
Puis c'est politique aussi.
Ouais.
C'est que c'est un sujet qui est très complexe aussi, parce que politique, de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait après, on a tout de suite voulu tourner la page des mines. Donc, en fait, on rentre... ça explique tout.
Oui.
Toutes les questions. Mais après, comme nous, notre génération, le pouvoir, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on est neutre de tout ça. Parce qu'on arrive un peu après le truc. Et du coup, on voit juste un patrimoine qui disparaît et des gens qui ont aimé quelque chose, quoi. Qui ont des choses à raconter et qui va écouter.
Oui, c'est ça, et voilà.
Je sais pas si t'as le même ressenti, mais là,
C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent avec leur histoire, leur émotion. Et nous, on n'a pas vécu ça, mais...
C'est à la fois des bâtiments qui restent, mais beaucoup ont disparu. Mais c'est surtout une vie, quoi. Parce que l'époque minière, le bâtiment en lui-même, il a rien de... Enfin, si, là, c'est une machine, enfin, c'est vraiment un monstre de bâtiment, mais un bâtiment minier, c'est le même qu'on peut retrouver un peu partout. C'est vraiment le vécu des personnes qui aient le patrimoine, en soi, de la mine.
Oui, 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 c'est sûr.
Du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour justement toutes les personnes qui nous écoutent par rapport à tout ça, ce sujet de s'engager pour le patrimoine?
Oui, bah, je pense que c'est très important. Puisse valoriser donc, notre patrimoine. Si on ne fait rien, en fait, il est voué à disparaître. Mmh. Et je pense que... Bon, après, c'est un sujet qui est forcément délicat puisque tout le monde n'est pas pro patrimoine. Mais en même temps, c'est notre histoire aussi. Enfin, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toutes ces phases-là dans l'histoire nationale, mondiale. Et aujourd'hui, si on fait rien, ben, on va perdre tout ça. Et je pense que ça serait dommage. Aujourd'hui, je pense que l'atout, c'est qu'il y a beaucoup plus d'outils numériques, notamment.
Complètement.
Et je pense que même si on ne peut pas sauver des bâtiments trop chers ou tout ça, bah peut-être qu'on peut contourner tout ça pour faire valoriser le patrimoine d'une autre manière, et surtout digital et numérique.
Et laisser une trace, quoi.
Et laisser une trace quand même. Et je pense que ça peut être notre devoir en tant que jeunes de construire cette mémoire.
Du coup, les jeunes, avec le numérique, on l'utilise au quotidien, donc c'est aussi plus facile de se dire... de l'utiliser, que les personnes plus âgées, ils n'auront pas ce réflexe à se dire de ce qu'on peut faire. Ça peut leur faire peur aussi.
C'est ça, peut-être, ouais, de se dire... Alors que nous, aujourd'hui, on va écrire, on va parler, là, on enregistre.
On parle.
Si on ne nous donne pas les moyens autour de réussir quelque chose, la motivation, elle part, elle n'est pas tout le temps là. Et pour de tels projets, on a besoin de motivation, mais...
Pas lâcher, il faut s'entourer aussi.
Faut pas lâcher, il faut bien s'entourer. Bon, nous, on s'est bien trouvé. C'est
assez
drôle, mais c'est pas mal. Puis voilà, après, ça permet de faire des rencontres aussi, hein, finalement. C'est moi, je pensais pas du tout que j'allais être amenée à aller autant de fois par an. Là, je crois que ça va être la troisième fois que je vais à Montceau-les-Mines.
C'est pas la porte à côté.
Oui, non, c'est sûr, hein, c'est à 3 heures.
Ouais, c'est un dépassement aussi de soi. Enfin, du coup, tu fais des choses que tu t'aurais pas imaginé que tu ferais.
Je me suis dit, en fait, toi, tu vas peut-être permettre de faire quelque chose. Après, là, pour le coup, bah, j'ai réussi à écrire mon mémoire dessus. Et...
C'est ta trace.
Et oui, au moins, c'est ma trace. Peut-être ça servira à rien, mais peut-être ça servira à quelque chose.
Mmh.
Et en fait, peu importe son utilisation, au moins il a le mérite d'être là.
Peu importe la forme de comment on s'engage, en fait, on peut aussi.
Ouais, c'est ça.
En fonction de
nos... près ou de loin.
Ouais. Ouais, puis en plus, tu le soulevais avec le numérique, je pense, les réseaux sociaux, les photos qu'on prend en vacances. C'est ça. Ça peut être un peu bateau, mais c'est vrai que rien que toutes ces photos, c'est aussi une mémoire visuelle de tous ces lieux.
Exactement.
Qu'on sauvegarde. Donc on a tout ça à notre niveau, on peut agir et si on a envie de faire les choses, bah. Let's go, quoi.
Dire. Je pense que si on a envie de faire quelque chose, bah faut y aller.
Ouais, après aussi de trouver des personnes sur notre chemin qui vont nous accompagner. Enfin, nous, on a fait toutes nos études ensemble quasiment, et en fait, on se parlait pas plus que ça à l'école.
Non, c'est vrai.
Et là, maintenant, on se retrouve à faire ça, à chercher à comment on peut travailler sur ce lavoir. Et je trouve ça intéressant aussi. En fait, on croise des gens, on se remotive, on avance.
C'est ça.
Merci à Victorine pour cet échange et son engagement pour le patrimoine. Durant notre discussion, nous avons parlé de son mémoire qui retrace l'histoire de ce site exceptionnel. Nous vous laissons terminer cet épisode avec un peu plus d'informations à ce sujet.
Donc, par rapport à ce mémoire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment tu l'as construit? Qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu?
Dans ce mémoire, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé autour de la question du pouvoir d'une inscription. Et donc, j'ai travaillé autour de différentes limites. La première partie, donc, c'était plutôt le contexte historique et géographique à considérer. Ensuite, social, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un passé minier, ça a des pour et des contre. Donc, tout ça, essayer de raconter, essayer de comprendre. Est-ce que tout ça a pu bloquer, peut-être politiquement, dire est-ce qu'on a plutôt envie que cette mémoire disparaisse ou est-ce qu'on veut plutôt la mettre en valeur. Dans la seconde partie, j'ai plutôt confronté donc, l'influence politique et économique sur un bâtiment comme ça, pour essayer de comprendre comment on s'est retrouvé avec un bâtiment comme ça où rien n'a été fait pendant 20 ans. Comment, en fait, c'est possible. Enfin, on a un bâtiment, on a des politiques, on a une inscription, et à la fin, il y a une radiation, quoi. Mmh. Et un bâtiment qui est complètement en ruine. Enfin, aujourd'hui, ça porte vraiment une question sur le réel sens et le pouvoir d'un politique. Enfin, et dans la troisième partie, là, c'est vraiment tourné sur le bâtiment, l'architecture du bâtiment. Parce que bon, c'était quand même un mémoire de fin d'études sur... En architecture, donc s'il n'y avait pas un peu d'architecture. Mais du coup, je travaille sur les limites patrimoniales et les limites architecturales. Parce que forcément, quand un bâtiment il est inscrit, il y a des normes à respecter, des contraintes. Donc il faut travailler avec forcément un architecte du patrimoine. Et puis architecturalement, c'est un bâtiment machine. C'est-à-dire qu'il a été fait pour mettre les machines dedans. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose réellement question sur sa réhabilitation. Parce que il tient parce qu'il y a les machines. On a posé les machines et après, on a fait une toiture pour le protéger, quoi. Enfin, t'enlèves une machine, mais t'as toutes les plateformes et les escaliers qui viennent avec. Enfin, puisque tout est construit autour.
Ouais, donc au-delà de la question politique et économique, j'ai envie de dire, cette question de l'usage qu'on va mettre dedans, il dépend aussi de... En fait, il n'y a pas d'espace construit vu que c'est des machines qui occupent cet espace.
Je cherche potentiellement une maison d'édition.
Donc c'est un appel, une bouteille à la mer, si vous connaissez des maisons d'édition ou des personnes qui connaissent des maisons d'édition, c'est plus du coup sur le patrimoine, c'est un bel ouvrage avec, t'as des interviews aussi.
Oui, des interviews en annexe, il y a quand même presque 100 pages d'annexe.
Ouais, il y a un bon petit dossier d'analyse, puis ce serait... Ouais, c'est une belle manière de transmettre aussi...
Laisser une trace de quelque chose, ouais.
Et puis faire réfléchir aussi sur ces questions de friche industrielle, patrimoine et tout ça, c'est un bel outil, quoi. Ouais. J'ai vendu avec toi ton travail, t'as vu ?
Merci, c'est gentil.